Chapitre 8. L'enquête sur les mystères du beffroi et ses suites dramatiques. Par les soins du greffier Jabiou et des deux agents composant la force publique à Flissemug, les échevins venaient d'être convoqués extraordinairement à l'hôtel de ville. Monsieur le maire se promenait fiévreusement avec eux dans la grande salle du conseil pendant que M. Jabiou préparait des papiers et des plumes. « J'en apprends de belles, messieurs, » disait le bourgmestre, « de belles vraiment sur notre hôtel de ville. Vous ne vous doutez pas de ce que nous avons sur nos têtes, ici dans ce beffroi. Je viens coup sur coup de recevoir d'inquiétantes révélations de M. Jabiou au sujet de... Oh, vous allez voir cela tout à l'heure. Et la plainte d'une famille anglaise, qui a failli se noyer ce matin même au sommet de notre beffroi. « Au sommet du beffroi, se noyer !» s'écrièrent les échevins d'une seule voix. « Oui, se noyer, c'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, oui, monsieur, se noyer. J'ai vu ces infortunés m'arriver tout ruisselant d'eau, il n'y a pas à dire, ils ont fait une mare dans mon salon. Mais ils ont voulu dire dans la rivière, » hasarda un échevin. « Non, sur le beffroi, vous dis-je. J'ai interrogé ces voyageurs et Jabiou, qui était chez moi, a rédigé leur déposition. Et ne pensez pas que ce soit tout. Jabiou lui-même a failli être noyé cette nuit. Aussi ou dans la rive... Non, dans son lit. Il venait me prévenir des étranges choses qui se passent dans notre hôtel de ville. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire ? S'écria un échevin. Je comprends pas. J'y perds mon latin. Cela veut dire, monsieur, que sans que nous nous en doutions, on a amené une rivière sur nos têtes. Attendez, outre la rivière, il y a des étables, des poules, des oies, des chèvres, certainement, des bœufs aussi, peut-être, car rien ne m'étonne plus. Attendez, voyons la déposition de ces voyageurs anglais. Et un jardin en plein rapport, des carrés de choux, des salades, de petits pois, il y a tout, des tomates, des potirons, des groseilles, et que sais-je. Enfin, une vraie ferme, basse-cour, étable et potager. Voilà ce qu'il y a, paraît-il, sur nos têtes, et nous allons immédiatement nommer une commission chargée de vérifier tout cela. Elle fera sans désemparer son enquête, et sur son rapport, nous prendrons les mesures nécessaires. « Mais qu'est-ce qui nous donne tous ces ennuis ?» demanda l'échevin Van Arnig. « Qui a créé ce jardin et fait couler cette rivière sur nos têtes ?»« Ben, parbleu, c'est le guetteur Gurdebec, neveu. Nous pensions que la ville pouvait dormir en sûreté sous sa garde, et voilà comme cet homme mérite notre confiance. Faut bien vite y mettre bon ordre, il faut sévir. » Quatre échevins furent désignés pour procéder à une enquête rapide. Tous seraient bien montés là-haut, mais les uns étaient gros et poussifs, comme le disait tout bas irrespectueusement M. Jabiou. Les autres avaient naguère usé de leur influence pour faire attribuer la place de guetteur à Gurdebec, neveu, et leur eût été pénible d'avoir à réclamer son expulsion. On adjoignit à la commission le greffier Jabiou et l'architecte de la ville convoqué à cet effet, et bientôt les enquêteurs, la mine sévère et le sourcil froncé, s'engagèrent à la file dans l'escalier du beffroi. Le pauvre Gurdebec, ayant aperçu les édiles à leur arrivée à l'hôtel de ville, se doutait bien de ce qui se préparait. Il se promenait de long en large, sur sa plateforme, en proie à de sombres méditations, pendant que Madame Gurdebec, écroulée sur une chaise, contemplait sans mot dire ses salades et ses enfants qui poussaient si bien, en si bon air, sur le beffroi. Mais que faire? Probablement les échevins allaient s'offusquer de ces embellissements et blâmer la transformation de la plateforme en potager. Ben, il était pourtant bien naturel qu'un père de famille, voyant, pouvait-on dire, un terrain vague, mettons un espace sans valeur, songeât à l'utiliser au plus grand avantage de sa famille. Cela ne nuisait à personne, ni à rien, après tout. Si un peu d'eau avait coulé chez le greffier, c'était par accident, une fuite aussitôt bouchée. Burdebec aurait bien voulu en ce moment faire disparaître sa petite rivière, mais que faire de toute cette eau? S'il débouchait subitement les gargouilles, on s'en apercevrait tout de suite. Non, il ne pouvait rien dissimuler, ni les légumes, ni les poules, ni les chèvres. Il n'y avait qu'à attendre et à faire appel à l'indulgence des échevins. Il en était là de ses réflexions lorsque les membres de la commission surgirent dans la cage de l'escalier. Jabiou et le bourgmestre les avaient préparés à tout. Néanmoins, à la vue du potager de la plateforme, des verdures, de légumes et des fleurs éclairées par un guérillon de soleil, à la vue des poules picorant dans la paille comme dans une vraie ferme, ils ne purent retenir un cri de stupéfaction. Corbleu! S'écria l'architecte Van Baal. Mon monument transformé en jardin maraîcher! Tous les échevins, avec ensemble, levèrent au ciel des bras indignés. Inouï, inouï! Finit Monsieur Jabillou. Les voyageurs anglais avaient dit vrai. C'est une ferme. Des poules, des canards, des oies. Voilà donc la raison des bruits mystérieux que j'entendais. Gurdebec s'efforça de faire homme bonne contenance. Oui, j'élève comme ça quelques poules, dit-il. Le médecin recommandait les œufs frais aux enfants. Alors, comme ça va, vous comprenez. Bon, des poules et maintenant des canards. Madame Burgebec n'aime que les œufs de canne, alors comme ça, et des oies. Ah oui, fit Burgebec, ça c'est pour la Noël, vous comprenez, à cette hauteur, il faut avoir des ressources sous la main. Et cette rivière, malheureux, ben, c'est pour les canards. Oui, et ça coulait dans mon lit et dans mes dossiers, monsieur l'architecte de la ville. Va tout vérifier, dresser le compte des dégâts. Ah, vous dégradez notre hôtel de ville. On vous le fera payer, mon garçon. Votre affaire est bonne. Poursuivons, messieurs les échevins, et notons sans rien omettre tous les méfaits de cet homme. La commission mit 2 heures à procéder à une minutieuse inspection du beffroi et des combles de l'hôtel de ville. L'architecte prenait des notes, le greffier formait un dossier écrasant pour l'infortuné Gurdebec. Celui-ci essaya vainement de fournir quelques timides excuses. On lui enjoignit de rentrer dans sa tourelle et d'y attendre les décisions du conseil. Quand les enquêteurs furent descendus, monsieur et madame Gurdebec se hasardèrent à sortir de chez eux et se promenèrent désolés au milieu de leurs légumes foulés aux pieds. Ils passèrent tristement le reste de la journée en proie aux soucis les plus cruels. Allait-on perdre ainsi pour des vétilles une si bonne petite place avec tous ses avantages? C'était dur. Une installation si bien comprise, un jardinet si gentiment arrangé, un logis si agréable, avec les dépenses si commodes, les dépendances si commodes. Allait-on être forcé de quitter tout cela et de trouver, jeté sur le pavé, sans domicile et sans gagne-pain? Et pour comble de malheur, Gurdebec, dans sa préoccupation, avait oublié d'aller remonter le carillon de Saint-Éloi. Ce carillon laissa passer 2 heures sans jouer ses airs habituels, au grand émoi de la ville. On allait en faire un grief de plus contre lui. Quand il y repensa, Gurdebec se hâta de courir réparer sa négligence et fit donner coup sur coup les heures oubliées. Le soir était venu. Le guetteur ne se décida à souper qu'après avoir pris la résolution de descendre le lendemain, faire des excuses à M. Jabiou et de voir M. le bourgmestre pour réclamer toute son indulgence. Pendant ce temps, le greffier Jabiou travaillait avec ardeur un rapport détaillé des découvertes faites par la commission d'enquête au sommet du beffroi. Il s'était attelé à ce rapport dès sa rentrée au greffe, et quand le soir fut arrivé, il emporta son dossier dans sa chambre pour terminer son travail après dîner. La lumière brilla longtemps dans la chambre de M. Jabiou. Pendant que tout reposait au-dessous du beffroi dans la ville silencieuse et noire, la plume de M. Jabiou continuait à courir sur le papier, entassant les charges les plus graves sur la tête de l'infortuné Gourdebec. Ce n'était pas un rapport, c'était un réquisitoire. Et si le terrible greffier ne réclamait pas la tête du coupable, il s'en fallait bien peu. La plume courait, grinçait, découvrant toujours de nouveaux méfaits à reprocher au pauvre guetteur. Oh, son compte était bon. Cependant, les heures passaient. 10 heures, 11 heures, puis minuit. M. Jabiou n'entendit que très vaguement les tambourineurs flissebourgeois sonner les 12 coups au-dessus de sa tête, car sans abandonner sa plume, il venait de s'endormir sur son papier. Il essayait pourtant de lutter, mais sa tête se redressait puis retombait. Dans un de ces mouvements inconscients, la calotte de M. Jaillou frôla une des deux chandelles éclairant le bureau, et le gland de laine s'enflamma subitement. M. Jabiou n'en eut pas conscience. La calotte enflammée tomba sous la table dans une corbeille pleine de papiers qui prirent feu à leur tour. M. Jabiou, tout à coup, poussa un cri. Il venait de sentir la flamme mordre ses mollets. Éperdu à la vue du feu, il bondit en arrière en enlevant rapidement ses papiers pour sauver son rapport, mais dans ce mouvement trop brusque, il renversa sa table sur les papiers allumés, donnant ainsi un nouvel aliment au feu. Une grande flamme s'éleva. M. Jabiou s'élança hors de la chambre en appelant au secours d'une voix étranglée. Et Madame Jabiou, éveillée en sursaut, n'eut que le temps de sauter hors de son lit. En un instant, l'appartement fut rempli de fumée. Madame Jabiou, épouvantée, étouffée, toussant et pleurant, se précipita en jupon dans l'escalier pendant que sa bonne arrivait avec une carafe d'eau et que M. Jabiou ouvrait une fenêtre pour donner l'alarme. Cependant, le pauvre Gourdebec, accablé par le tourment, ne dormait pas bien fort cette nuit-là. Il perçut vaguement les appels de M. Jabiou et sauta aussi en bas de son lit. À peine vêtu, il courut à la plateforme en s'efforçant de percer les ténèbres épaisses. Il entendit au-dessous de lui la voix effarée de M. Jabiou et se pencha vers son ennemi. « Qu'est-ce qu'il y a? » cria-t-il. « Le feu! » gémit M. Jabiou à bout de souffle. « Mais où ça, le feu? Je vois rien. Tout est noir en ville. « Mais c'est pas en ville, put dire encore M. Jabiou, c'est ici, chez moi, tout brûle. « Saperlotte! » s'écria Gourdebec. « Mais oui, c'est vrai, je vois la flamme. « Oh, je sonne le tocsin et je descends. « Oh, attendez, il y a un moyen. » Cependant, Mme Gourdebec aussi s'était levée et à la vue des flammes, elle avait été se suspendre dans la grosse cloche du tocsin. N'ayant point à s'occuper de donner l'alarme, le guetteur courut allumer une lanterne et revint s'agenouiller parmi ses légumes au bord de son ruisseau. Mais ah ça, tu deviens fou, Gourdebec. Qu'est-ce que tu fais là? Cria Madame Gourdebec. Quand nous allons rôtir. Laisse, je travaille, répondit Gourdebec, levant sa lanterne d'une main et fouillant de l'autre dans son ruisseau avec une tige de fer. Mais ça brûle en bas. Et les coups du tocsin, continuaient à tomber sur la ville, d'où commençait à monter une rumeur. Là, ça y est, fit Gourdebec, se relevant. Tu comprends pas, mais j'ai débouché la fuite dont se plaignait le greffier. Maintenant, ça coule en plein chez lui. Vois comme notre rivière file. En prêtant l'oreille par-dessus la plateforme, on entendait l'eau crépiter dans la chambre en feu, pendant que sortaient par la fenêtre des tourbillons de fumée noire. Maintenant les grandes eaux, fit Gourdebec, aide-moi, Isabelle, à renverser notre tonneau d'eau de réserve. Allons-y, allez, une, deux, et vigoureusement, et tout sera pour Monsieur Jabiou. La tonne versa un nouveau flot dans le ruisseau. Un violent glouglou indiqua que la fuite s'élargissait et que toute l'eau devait faire cataracte dans la pièce incendiée. Aussitôt après, Gourdebec se précipita dans l'escalier et tomba comme une bombe sur le palier du greffier où Madame Jabiou et sa bonne continuaient à pousser des cris. N'ayez plus peur, voilà du secours, leur cria-t-il en les bousculant un peu pour pénétrer dans l'appartement. Oui, monsieur Jabiou, où êtes-vous? Où est le feu? Par ici, clama le greffier, par ici. Voilà. Gourdebec enfonça un peu la porte de la chambre du greffier, pendant que celui-ci se tenait prudemment en arrière. Un flot de fumée épaisse jaillit par l'ouverture. Gourdebec toussa, ferma un instant les yeux, mais ne recula pas. Ça va bien, murmura-t-il d'une voix rauque, quand il put, au bout d'un instant, entrebâiller ses paupières et ses lèvres. La chambre du greffier dégageait une odeur âcre et nauséabonde. L'eau coulait toujours par une fissure du plafond, mais l'incendie était vaincu. Un peu de flamme couvait encore dans un coin, achevant de brûler avec les débris de la table un tas de papiers, parmi lesquels devait se trouver le rapport de Monsieur Jabiou. Gourdebec tomba dessus à coups de pied et s'efforça d'étouffer les dernières flammèches. Saperlotte, ça sent joliment mauvais, le papier roussi, cria-t-il en toussant. Ce n'est guère ça, le papier timbré. Ça donnerait des quintes à Belzébuth lui-même. Voilà les pompiers, dit la bonne en hasardant la tête dans la pièce. Des cris et un retentissement de gros souliers dans l'escalier annonçaient l'arrivée des pompiers flismugois, rassemblés en toute hâte au son du tocsin, comme Madame Gourdebec en haut continuait à sonner à tour de bras. Qu'est-ce qu'il y a? Où diable est le feu? Criait tous à la fois les hommes à casque en brandissant des taches ou des seaux et en bousculant le greffier, la greffière et la bonne. Mais dans ma chambre, tout brûle, tout, balbutia Monsieur Jabiou, que les envahisseurs avaient envoyé rouler dans un fauteuil. C'est fini, dit Gourdebec, c'est éteint. Désolé du dérangement, messieurs, mais j'ai tout éteint, voyez. Quel désastre, mes papiers et mon rapport. Notre enquête sur vos extraordinaires agissements, guetteur Gourdebec, sur les dégâts causés par vous au beffroi. Votre rapport, mes agissements extraordinaires, eh bien, monsieur le greffier, sans mes agissements, comme vous dites. Vous seriez à cette heure grillé, rôti, et, il me semble, c'est mon nom qui a éteint le feu par cette fissure de la voûte que j'ai agrandie pour vous secourir. Vous devriez plutôt me remercier. En effet, dit le capitaine des pompiers qui examinait les traces de l'incendie, Vous avez noyé le feu, l'eau goûte encore. Bien travaillé, Gourdebec, bien travaillé. Alors, capitaine, vous approuvez? Oh, complètement. Par votre sang-froid et vos mesures intelligentes, vous avez prévenu un désastre. Vous êtes un vrai pompier, et la ville vous doit des remerciements, Gourdebec, de fameux remerciements. Vous méritez une médaille, allons, monsieur Jabiou. Plus la prudence, hein, de griffonner plus le soir de l'intérêt de notre monument. Et vous, Gourdebec, faites taire votre tocsin et continuez à veiller comme vous l'avez fait présentement. Et nous, bah, allons nous recoucher. Pendant que les pompiers dégringolaient l'escalier, heureux de s'en aller retrouver leur lit, Gourdebec monta bien vite rassurer sa femme et arrêter le tocsin. Puis il descendit aider M. Jabiou à nettoyer la chambre abîmée par les flammes et par l'eau. Les dégâts, en somme, étaient peu importants. Quelques meubles détériorés, des tentures perdues, une table et une chaise brûlées avec un tas de paperasses détruites. Pas de dommages sérieux. Et cependant, M. Jabiou soupirait bien fort en ramassant tous les débris de papier pour essayer de reconstituer le rapport qui lui avait donné tant de mal. Enfin, Gourdebec, après un grand nettoyage et une inspection minutieuse passée par tout l'appartement, put remonter chez lui en portant pour récompense un merci, guetteur, merci, murmuré d'une voix aigre par le greffier.